RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie, la revue suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Serviteurs, bonsoir. Voici donc les journaux. Nous commençons avec les titres. Gapki a dit les allégations négatives sur l'industrie de l'huile de palme étaient incorrectes. L'industrie de la modification de véhicules a été encouragée à pénétrer le marché d'exportation. Le gouvernement élargit la taxe sur la valeur ajoutée sur les exportations de services de 0%. Les pays membres de l'OCI espèrent pouvoir produire des médicaments et des vaccins indépendants. Les administrations régionales sont invitées à participer activement à la promotion des produits des PME. Et enfin, le Moyen-Orient est intéressé à l'adoption de la technologie de vaccins de l'Indonésie. Voici le journal complet. L'Association indonésienne des producteurs d'huile de palme, GAPKI, a souligné que diverses accusations adressées aux entreprises d'huile de palme qu'ils produisent de l'huile sale n'est pas vraie. C'est ce qu'a déclaré le directeur exécutif de GAPKI, Mukti Sarjono, mercredi à Antara, à Jakarta. Il a déclaré que le secteur des plantations de palmiers à huile était devenu le principal secteur économique à atteindre les objectifs de développement durable. La gestion des plantations de palmiers à huile par la société des plantations doit respecter les lois et réglementations applicables à la fois dans le processus de licence, la gestion des plantations et la production de palmiers à huile. Les terres fournies dans le permis d'exploitation de plantation IUP sont les terres APL ou autres zones d'utilisation et ou des forêts de production convertible ou HPK où l'utilisation de HPK doit être autorisée par le ministère de l'Environnement et des Forêts. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, a déclaré que le gouvernement avait étendu la facilité fiscale sous la forme de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, des exportations de services de 0% afin d'encourager l'augmentation des exportations de services. Sri Mulyani, au palais présidentiel à Bogor, dans l'ouest de Java, a déclaré mercredi que l'exportation de services sous forme de services informatiques, les services de recherche et développement, les services juridiques, les services de comptabilité et l'audit, services d'interconnexion, les services de location de matériel de transport et l'expédition de fret et les services de gestion du matériel de transport. Selon Sri Mulyani, sa partie est en train de finaliser le règlement du ministre des Finances donnant les facilités fiscales. Ainsi, l'Indonésie peut avoir les mêmes facilités avec les autres pays de l'ASEAN. Les pays membres de l'Organisation de coopération islamique et l'Agence de surveillance des aliments et des drogues ont organisé une réunion pour discuter de la production de médicaments et des vaccins à Jakarta mercredi. La réunion devrait renforcer les objectifs des pays membres en matière d'indépendance dans la production de médicaments et de vaccins. Le secrétaire général adjoint de l'Organisation de la coopération islamique, Mohamed Naïm Khan, a déclaré en marge de la réunion que les dirigeants de l'OTI depuis des années continuent de mettre l'accent sur la réalisation de l'autoproduction de médicaments et de vaccins abordables et de haute qualité. Pour cette raison, le thème de cette réunion est « Collaboration pour l'autonomie ». Actuellement, la majorité des pays membres de l'Organisation de coopération islamique sont des pays en développement. Par conséquent, des médicaments abordables, mais toujours sûrs et de qualité, sont des éléments importants dont nous avons besoin. Penny Kalukito, responsable de l'agence de surveillance des aliments et des drogues, espère que les pays de l'Organisation de la coopération islamique pourront progresser dans la fabrication et l'exportation de médicaments et de vaccins. Les administrations régionales sont invitées à participer activement à la promotion des produits locaux des petites et moyennes entreprises ou PME et des coopératives sur les marchés nationaux et internationaux. Le secrétaire du ministère des coopératives et des PME, Meliadi Sembiri, a déclaré mercredi que les administrations régionales pourraient jouer un rôle important dans le développement des coopératives et des PME et dans la commercialisation de leurs produits. Il a déclaré que les expositions sont susceptibles d'accroître les transactions et les activités commerciales. Meliadi a déclaré que les coopératives et les PME ont une grande contribution au développement économique du pays, car elles constituent la grande majorité du nombre d'hommes d'affaires du pays. À l'ère du libre-échange, les produits des coopératives et des PME doivent concurrencer les produits importés, inondant le marché intérieur, a-t-il déclaré. Le président directeur de PT Bio Pharma, Rahman Rustan, a déclaré qu'un certain nombre de pays du Moyen-Orient étaient intéressés au transfert de technologie de la production de vaccins d'Indonésie. Cela signifie que le vaccin indonésien était cru. C'est ce qu'a déclaré Rahman Rustan en marge de la première réunion des chefs de l'Agence nationale de surveillance des médicaments des États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui s'est tenue à Jakarta mercredi. Selon lui, la capacité de Bio Pharma à produire des vaccins et d'autres produits biotechnologiques est bonne, de sorte que ces produits sont demandés par les pays du Moyen-Orient. Selon Antara, les autorités saoudiennes ont maintenant signé un accord de coopération concernant le transfert de la technologie des vaccins. Outre l'Arabie Saoudite, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal et la Turquie ont également exploré le processus de transfert de technologie. Rahman a bien accepté l'intention de plusieurs pays de transférer la technologie, parce qu'avec la prévalence croissante des capacités de production de vaccins par les membres de l'Organisation de la coopération islamique, cela réalisera la bonne santé dans ces pays. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serviteur, pour l'arbitre suivant, voici donc le commentaire et pour le titre, l'importance des arbres pour les êtres vivants. L'existence d'arbres qui fait également partie des êtres vivants dans ce monde est très importante. De nombreux services pour tous les autres êtres vivants, en particulier pour les humains, qui avec raison doivent les maintenir et les préserver. Les arbres sont les poumons du monde et jouent également un rôle important dans la chaîne de la vie sur Terre. Les arbres sont des êtres vivants dotés d'une capacité extraordinaire à effectuer la photosynthèse, qui peut réduire les niveaux de CO2 dans l'air et produire l'oxygène dont l'humain et les animaux ont besoin. Mais les arbres sont souvent oubliés et leur présence n'est pas appréciée car, en tant que créatures vivantes, il existe en réalité des interdépendances que le réchauffement climatique actuel est causé par beaucoup de pollution industrielle et la perte des forêts en raison de déforestation non contrôlée qui réduit l'oxygène dans la terre. les avantages du dioxyde de carbone au CO2 en tant que déclencheur du changement climatique peuvent être causés par de nombreux facteurs. Dans un an, un hectare d'arbre mature peut absorber la quantité de CO2 produite ou l'équivalent lorsque vous conduisez une voiture jusqu'à 26 000 km. Les arbres absorbent également les odeurs et les gaz polluants tels que oxyde d'azote, ammoniac, dioxyde de soufre et ozone, et filtrent les particules en suspension dans l'air et les retenant dans les feuilles et les troncs. Au lieu de cela, les arbres produisent de l'oxygène O2 à la source du souffle de nos vies. Dans un an, environ un hectare d'arbre peut produire suffisamment d'oxygène pour 18 personnes. Le 21 novembre, à l'occasion de la Journée mondiale de l'arbre, il est temps que nous nous déplacions et d'éviter l'extension des arbres ou des plantes sur ces terres. La Journée de l'arbre est organisée pour rappeler aux gens l'importance des arbres pour la vie des êtres vivants, lutter contre le réchauffement climatique, prévenir les catastrophes naturelles et protéger les lieux de vie du monde. La célébration de la Journée mondiale de l'arbre a également pour but de rappeler et d'honorer le service de J. Sterling Morton, un amoureux de la nature des États-Unis. Morton était si persévérant dans sa campagne en faveur des mouvements de plantation d'arbres. Vu l'importance du rôle des arbres dans la vie des êtres vivants dans le monde, la commémoration de la Journée mondiale de l'arbre ne devrait pas être seulement le cérémonial. Il faut une politique qui mette l'accent sur l'expansion des espèces vertes et sur la réglementation stricte en matière de l'analyse d'impact sur l'environnement dans chaque projet d'infrastructure et projet industriel. L'adage que nous devons se rappeler est le suivant. Si l'arbre est épuisé ou éteint, l'homme et les animaux sont également menacés de disparition. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir les auditeurs. Voici le programme de l'histoire d'aujourd'hui, 22 novembre. On commence par le 22 novembre 1963, le meurtre du président américain John F. Kennedy à Dallas. Lors de tournée aux États-Unis, le président John Fitzgerald Kennedy a été tué par 3 balles alors qu'il passait le centre-ville de Dallas dans une Cadillac décapotable. Après la fusillade, le président Kennedy a été immédiatement conduit à l'hôpital de Parkland Memorial de Dallas, mais il est décédé 30 minutes plus tard. Le président John F. Kennedy est décédé à l'âge de 46 ans. Jusqu'à présent, le motif du meurtre n'est toujours pas clair. De plus, le tueur présumé du président a également été exécuté par la guerre du corps des présidents. Le 22 novembre 1986, le boxeur Mike Tyson est devenu le plus jeune champion de boxe de poids lourd du monde. Après avoir fêté son anniversaire de 20 ans, le boxeur poids lourd américain Mike Tyson a remporté le titre de champion du monde de boxe à Las Vegas. Il a battu le champion en titre du Canada, Trevor Berbick, avec knockout au deuxième tour. Cette victoire a permis à Mike Tyson d'écrire dans l'histoire en devenant le plus jeune champion du monde des poids lourds. La vie de Mike Tyson a été pleine de problèmes. À plusieurs reprises, il a été impliqué dans des affaires judiciaires. En 1995, après avoir été emprisonné dans l'Indiana à la suite d'une affaire de viol, Mike Tyson a dit qu'il s'était converti à l'islam et changé son nom en Malik Abdul Aziz. Après avoir été déclaré en faillite par le tribunal en août 2003, Mike Tyson a finalement démissionné au total du ring de boxe de juin 2005. Le 22 novembre 2002, l'Indonésie et la FICR ont signé un accord de coopération humanitaire. Le gouvernement indonésien était représenté par le ministère des Affaires étrangères pour signer une coopération dans le domaine de l'humanité avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou FICR, basée à Genève, en Suisse, ainsi que des représentants de la FICR en Indonésie. La FICR, en coopération avec le PMI, la Croix-Rouge indonésienne, a été créée et s'est concentrée sur les efforts visant à améliorer et à développer des programmes de préparation pour tous les rangs du PMI pour faire face aux catastrophes naturelles et humanitaires, y compris les services de santé, sans distinction de nationalité, de race, de conviction ou de classe politique. Chers auditeurs, c'est toute l'histoire d'aujourd'hui, le 22 novembre. Au revoir.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée Les femmes indonésiennes soutiennent le ministère de l'Environnement et des Forêts pour appliquer les connaissances environnementales. Nofrizal Tahar, le directeur de la gestion des déchets à la Direction générale de la gestion des ordures, déchets et matières toxiques dangereuses du ministère de l'Environnement et des Forêts, a déclaré que selon le Bureau central de la statistique 2017, il y avait environ 69,6 millions de femmes âgées très productives de 15 jusqu'à 49 ans en Indonésie. Les femmes d'âge très productif soutiennent l'économie indonésienne dans divers secteurs. Les femmes sont souvent une référence pour le progrès d'une communauté. Plus les femmes d'une communauté qui font pour le bien, elles peuvent soutenir des bonnes conditions dans la communauté. Cela a été dit par Nofrizal Tahar à Jakarta samedi lors d'une discussion sur le rôle des femmes dans la protection de l'environnement autour d'eux. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a invité un certain nombre de communautés de femmes à discuter du rôle des femmes dans la protection de l'environnement qui les entoure. L'événement qui s'est tenu samedi à Jakarta avait pour thème les femmes, les cultures, la numérisation et l'environnement. L'événement vise à sensibiliser les femmes à l'importance de comprendre les tenants et les aboutissants du monde numérique et d'utiliser ces technologies pour améliorer l'environnement. Nofrizal Tahar a déclaré que chaque citoyen indonésien a le même droit à la vie, même le droit de disposer d'un environnement propre. Il a déclaré que tout cela était garanti par l'État, mais que dans le cadre d'un État, le pays devait développer son économie et son industrie. Cette industrie laisse souvent le sang de la protection de l'environnement. Selon lui, l'Indonésie aura un avenir si la communauté commence à faire une industrie verte ou industrie respectueuse de l'environnement. Au cours de la période gouvernementale actuelle, l'Indonésie commence à mettre en place de tels mouvements industriels respectueux de l'environnement. L'Indonésie, avec la culture pluraliste, veut devenir un pays développé en 2050. C'est pourquoi l'Indonésie doit harmoniser son idéologie et sa culture. Dans la discussion, on a également expliqué comment un pays peut progresser sans perdre sa culture. De même que l'Indonésie mène des activités de développement et l'économie possède une idéologie industrielle respectueuse de l'environnement. C'est pourquoi toutes les communautés doivent faire devenir la compréhension de l'environnement comme une partie intégrante de la culture et des habitudes afin que le développement indonésien qui respecte l'environnement puisse être réalisé dans toute l'Indonésie. Chers amis, c'était Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
L'Association indonésienne des producteurs d'huile de palme, GAPKI, a souligné que diverses accusations adressées aux entreprises d'huile de palme qu'ils produisent de l'huile sale n'est pas vraie. C'est ce qu'a déclaré le directeur exécutif de GAPKI, Mukti Sarjono, mercredi à Antara, à Jakarta. Il a déclaré que le secteur des plantations de palmiers à huile était devenu le principal secteur économique à atteindre les objectifs de développement durable. La gestion des plantations de palmiers à huile par la société de plantation doit respecter les lois et réglementations applicables à la fois dans le processus de licence, la gestion des plantations et la production de palmiers à huile. Les terres fournies dans le permis d'exploitation de plantation IUP sont les terres APL ou autres zones d'utilisation et ou des forêts de production convertible ou HPK où l'utilisation de HPK doit être autorisée par le ministère de l'Environnement et des Forêts. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, a déclaré que le gouvernement avait étendu la facilité fiscale sous la forme de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, des exportations de services de 0% afin d'encourager l'augmentation des exportations de services. Sri Mulyani, au palais présidentiel à Bogor, dans l'ouest de Java, a déclaré mercredi que l'exportation de services sous forme de services informatiques, les services de recherche et développement, les services juridiques, les services de comptabilité et l'audit, services d'interconnexion, les services de location de matériel de transport et l'expédition de fret et les services de gestion du matériel de transport. Selon Sri Mulyani, sa partie est en train de finaliser le règlement du ministre des Finances donnant les facilités fiscales. Ainsi, l'Indonésie peut avoir les mêmes facilités avec les autres pays de l'ASEAN. Les pays membres de l'Organisation de coopération islamique et l'Agence de surveillance des aliments et des drogues ont organisé une réunion pour discuter de la production de médicaments et des vaccins à Jakarta mercredi. La réunion devrait renforcer les objectifs des pays membres en matière d'indépendance dans la production de médicaments et de vaccins. Le secrétaire général adjoint de l'Organisation de la coopération islamique, Muhammad Naim Khan, a déclaré en marge de la réunion que les dirigeants de l'OCI depuis des années continuent de mettre l'accent sur la réalisation de l'autoproduction de médicaments et de vaccins abordables et de haute qualité. Pour cette raison, le thème de cette réunion est « Collaboration pour l'autonomie ». Actuellement, la majorité des pays membres de l'Organisation de coopération islamique sont des pays en développement. Par conséquent, des médicaments abordables, mais toujours sûrs et de qualité, sont des éléments importants dont nous avons besoin. Penny Kalukito, responsable de l'Agence de surveillance des aliments et des drogues, espère que les pays de l'Organisation de la coopération islamique pourront progresser dans la fabrication et l'exportation de médicaments et de vaccins. Les administrations régionales sont invitées à participer activement à la promotion des produits locaux des petites et moyennes entreprises ou PME et des coopératives sur les marchés nationaux et internationaux. Le secrétaire du ministère des coopératives et des PME, Meliadi Sembiri, a déclaré mercredi que les administrations régionales pourraient jouer un rôle important dans le développement des coopératives et des PME et dans la commercialisation de leurs produits. Il a déclaré que les expositions sont susceptibles d'accroître les transactions et les activités commerciales. Meliadi a déclaré que les coopératives et les PME ont une grande contribution au développement économique du pays, car elles constituent la grande majorité du nombre d'hommes d'affaires du pays. À l'ère du libre-échange, les produits des coopératives et des PME doivent concurrencer les produits importés, inondant le marché intérieur, a-t-il déclaré. Le président directeur de PT Biopharma, Rahman Roustan, a déclaré qu'un certain nombre des pays du Moyen-Orient étaient intéressés au transfert de technologie de la production de vaccins d'Indonésie. Cela signifie que le vaccin indonésien était cru. C'est ce qu'a déclaré Rahman Roustan en marge de la première réunion des chefs de l'Agence nationale de surveillance des médicaments des États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui s'est tenue à Jakarta mercredi. Selon lui, la capacité de Biopharma à produire des vaccins et d'autres produits biotechnologiques est bonne, de sorte que ces produits sont demandés par les pays du Moyen-Orient. Selon Antara, les autorités saoudiennes ont maintenant signé un accord de coopération concernant le transfert de la technologie des vaccins. Outre l'Arabie saoudite, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal et la Turquie ont également exploré le processus de transfert de technologie. Rahman a bien accepté l'intention de plusieurs pays de transférer la technologie, parce qu'avec la prévalence croissante des capacités de production de vaccins par les membres de l'Organisation de la coopération islamique, cela réalisera la bonne santé dans ces pays. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Magazine Culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter la place de Payangan. Jember est l'un des districts de l'Est de Java. Il est l'une des principales destinations touristiques de l'Est de Java. Cette destination touristique de Jember se présente sous la forme de place parce que le quartier surnommé la ville de Carnaval est directement adjacent à l'océan Indien au sud. Il existe différentes options de tourisme balnéaire intéressants à Jember. L'un des plus visités est la place de Payangan. La place de Payangan, située dans le village de Payangan, le district d'Ambulu, la distance entre cette place et la ville de Jember est d'environ 32 km avec un trajet d'environ 1 heure. Le prix des billets pour entrer sur cette place est assez abordable, à savoir 5 000 rupiah. La place de Payangan comprend en réalité trois parties de la place qui peuvent être visitées. La première partie est la place de pêcheurs qui fait face au sud-ouest. La partie suivante est une place avec des rochers séparés par une colline. La partie la plus large se trouve au côté nord de la place avec des rochers séparés par de petites collines. Le sable de la place de Payangan est noir avec les eaux de mer bleu clair. Bien sûr, en visitant cette place, ne manquez pas de jouer sur le sable noir et de sentir, je veux dire de sentir la fraîcheur de l'eau de mer de la place de Payangan en nageant. Vous pouvez entourer toute la place en montant à cheval. La location de ce veau n'est disponible que le week-end à un tarif de 20 000 rupiah. Les installations de la place de Payangan sont également complètes. Il y a des stands de nourriture, des toilettes et des salles de prière pour les touristes. Après la baignade, essayez également de gravir la colline autour de la plage. Il y a une colline de Samboja. Pour y aller, il faut passer par les escaliers et payer un ticket d'entrée 5000 rupiah. En arrivant là-bas, vous verrez des fleurs colorées. À notre, il existe de nombreux gazebos pour s'asseoir et se reposer. La colline de Samboja possède également plusieurs spots photos instagrammables. Par temps ensoleillé, on peut voir Nusa Barong, une île inhabitée qui est maintenant une réserve naturelle. En plus d'ouvrir de si beaux paysages, dans la région de la place de Payangan, il y a également le site historique de l'ère coloniale japonaise. Le site sous forme d'une grotte japonaise sur une colline en bord de mer. Et ne manquez pas d'explorer ce site touristique. Chers amis, c'est un magazine culturel intitulé La place de Payangan, situé à l'est de Java, précisément dans la ville de Jember. Merci à tous et au revoir.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, en formant sur l'Indonésie actuelle l'exposition gastronomique internationale annuelle. L'exposition culinaire Sial Interfood 2018 a eu lieu du 21 au 24 novembre à J-Expo Kemayoran, Jakarta. Cet événement est une exposition internationale de produits alimentaires affiliés au Salon français, Salon international de l'alimentation, Marché mondial de l'alimentation. Cette exposition annuelle présentera des stands de nourriture, des boissons, du matériel horeca tels que hôtels, restaurants et cafés, des services de restaurants et du pain. Selon Rizky Handayani Mustafa, adjoint au développement de l'industrie et des institutions au ministère du Tourisme, l'exposition culinaire Sial Interfood 2018 sera en mesure d'encourager l'essor de l'industrie culinaire et d'attirer le tourisme en Indonésie. Rizky Handayani Mustafa a ajouté que l'industrie culinaire indonésienne se développe rapidement. Dans les grandes et les petites villes, il est facile de trouver des restaurants et des cafés proposant des plats modernes. L'éveil culinaire relie également au montant un déficit de cette industrie qui représente 30% des dépenses touristiques totales. En collaborant avec diverses organisations et associations, experts, chefs, praticiens des domaines culinaires et gastronomiques nationaux et internationaux, cette exposition organise divers programmes, notamment Sial Innovation, qui valorise les participants pour les meilleures innovations en matière de produits alimentaires et l'industrie soutient, tels que l'emballage. Les produits gagnants de Sial Innovation seront présentés dans tous les réseaux d'exposition Sial Interfood de France, Canada, lundi, Chine et Moyen-Orient. De plus, l'activité du concours de la cuisine collabore avec le chef mondial et les associations d'entrepreneurs culinaires. À cette occasion, des chefs internationaux démontreront leur expertise, ainsi qu'il y a des concours de cuisine pour chefs professionnels de différents pays. Il y a également des démonstrations de thé et des concours de mélanger du thé, des séminaires et des ateliers sur le café et le vin, ainsi que des réunions d'affaires entre les acteurs de l'industrie culinaire internationale. Cette année, Ciel Interfood cible 75 000 visiteurs. L'année dernière, lors du salon Ciel Interfood 2017, il y a eu 900 participants de 33 pays et 53 000 visiteurs de 49 pays. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs de la Voix d'Indonésie. Voici notre programme, le magazine musical, qui introduit les chansons pop et traditionnelles de l'Indonésie. Dans cette édition, cette fois, on vous présente une chanteuse pop connue, s'appelle Yana Julio. Voici sa première chanson intitulée « Kucinta ». Bonne écoute. S'examiner, c'était Yana Julio avec sa chanson intitulée Kucinta. Yana Julio a le nom complète Rosiana, née à Bogor, Java West, le 8 avril 1960. Il a commencé sa carrière dans un festival de chant Bintang Radio et Télévision à Bogor. Il a gagné aussi un festival de chant populaire à Bogor et Jakarta. Il a participé et a gagné le prix dans un festival de chant populaire au niveau de l'Asie, entre autres le premier prix à Kuala Lumpur en Malaisie en 1988, le deuxième prix à Mani en 1999. Il est aussi devenu l'un des délégués indonésiens dans le programme de l'échange culturel en Europe. Bon, sans plus tard, voici donc la deuxième chanson de Yana Julio et Lita Jen intitulée Emosi Jiwa. Bonne écoute.
Kasih tersayang, ungkapan rasa.
Chère Rita, vous êtes toujours à l'écoute de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson de Yana Julio avec Rita Jane intitulée Emosi Jiwa. Chère Rita, Yana Julio, qui est un enfant de R.A. Karnawirya di Meja, était connu comme l'un des personnels du groupe vocal Elva Singer ensemble avec Agus Wisman, Rita Jane et Uchi Nurul. Grâce à son groupe, Yana a visité divers pays pour participer au festival de chant internationaux, entre autres à North Sea Jazz Festival. Le diplôme de l'École supérieure de l'agriculture a sorti quelques chansons hits, entre autres « Emosi Jiwa » et 8 albums tels que « Jumpa Lagi » en 2002, « Ku Cinta » en 1988, « Selamanya Cinta » en 1995 et « Hasrat Cinta ». Au milieu de l'an 2007, Yana a lancé l'album de la compilation se compose de 12 ses meilleures anciennes chansons plus une nouvelle chanson intitulée « Est-ce que je t'aimerai encore ?» Yana Julio a le caractère de la voix très adapte pour les chansons en nuances romantiques. Bien qu'actuellement Yana Julio chante rarement devant le public, mais il mérite encore d'être considéré comme le meilleur pop soliste masculin en Indonésie. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme musical ce soir, on écoute la chanson de Yana Julio et Agnes Monica intitulée Awan et Ombak. Bonne écoute et au revoir.
Hatiku selalu bertanya, kemanakah mereka lalu pergi? Nanti
kalaku pandang ombak di birunya laut, berkejar-kejaran tak henti panjang waktu. Adanya diriku dan dirimu seiring bersama memadu kisah kasih, selalu saja ada tanya, akankah semua akan berakhir indah.
Yeah.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
C'était des chansons indonésiennes, ainsi ça termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOIINDONESIA ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.